culture d'islam par Aleb Ben Cher. Aujourd'hui, nous parlerons de la construction humaine de l'islam, c'est-à-dire comment la tradition religieuse islamique et la civilisation qu'elle a sous-tendue s'est faite comme ça dans le temps après ce que nous appelons le moment coranique. Et pour parler de ce sujet, j'ai plaisir à recevoir ce matin Jean-Louis Schlegel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des religions, vous êtes éditeur, vous êtes directeur aussi de la revue Esprit, et nous avons plaisir de vous accueillir ce matin, et merci de nous faire l'amitié de parler en réalité de votre entretien avec le regretté professeur Mohamed Harkoun, qui a donné lieu à cet ouvrage posthume intitulé La construction humaine de l'islam. Comment l'idée même de ces entretiens, d'ailleurs que vous avez menés avec l'islamologue Rachid Benzine, est venue ?
Eh bien, cette idée est venue de Rachid Benzine, je crois, parce qu'il trouvait que, qu'au fond, Mohamed Harkoun méritait un livre d'entretien. Un livre d'entretien, évidemment, qui, comme toujours, permet de rappeler un peu son itinéraire, sa biographie et ses idées. Alors, il y a toujours un peu ces trois aspects. Et donc, Rachid Benzine m'a demandé, puisque vous rappelez toutes ces casquettes un peu composites qui sont les miennes, de venir faire avec lui cet entretien de Mohamed Harkoun. Alors, je dois dire simplement, humblement, que jusque-là, je ne connaissais pas personnellement Mohamed Harkoun. Je connaissais un certain nombre de ses écrits. J'avouerais même que j'avais lu un certain nombre d'écrits un peu polémiques sur l'évolution de l'islam français, de l'islam mondialisé dans les années 80. J'avais lu un certain nombre de ces écrits et je le trouvais quand même, à mon goût, bien sûr, un peu laïcard, pour dire les choses très simplement. Et je n'avais pas une idée négative, mais effectivement, j'avais cette impression que cet homme était quand même un de ces esprits éclairés qui se battait contre non seulement les excès religieux, mais la religion comme telle. Et en le rencontrant, je dois dire que là, effectivement, j'ai été heureusement détrompé. Parce que laïque, certainement, il l'était en esprit, mais certainement pas laïcard, et même, je l'ai entendu dire, ça se retrouve à certains endroits de ses entretiens, il était opposé à une critique religieuse qui détruirait le fond musulman, parce qu'il était assez sensible en même temps, on pourrait presque dire, à l'islam populaire, quoi. Il disait, mais bon, si les intellectuels critiques, les chercheurs critiques détruisent l'islam, qu'est-ce qui va rester ? C'est une formule qu'il employait presque comme telle. Mais qu'est-ce qui va rester aux musulmans pour vivre et pour croire et pour exister de façon heureuse ?
Donc il avait cette affection, en quelque sorte, pour un islam débonnaire et pour une dévotion populaire.
On peut dire ça comme ça, et là je pense, puisqu'il raconte ses origines dans le livre, hein, comme c'était lui-même un homme sorti d'un milieu très populaire, de Kabylie, sauf erreur, eh bien, peu importe ce détail, mais en tout cas, il a vécu avec ses parents cet islam basique, débonnaire peut-être, comme on dit parfois, paysan sûrement.
Oui, donnons simplement pour nos amis auditeurs la trajectoire de vie, très brièvement, 1928 dans un village en Kabylie, voilà. En Algérie. C'est un certain Taourir Tmimoun, pour donner exactement le nom du village. Mmh. Et puis il est décédé le 14 septembre 2010, oui. Déjà, bientôt 6 ans. Comment le contact humain s'est-il fait, j'allais dire physiquement maintenant? Vous l'avez connu d'une manière livresque, vous l'avez dit à travers les écrits, et la personne elle-même.
Ben écoutez, je peux dire, sans trahir de grands secrets, je pense, que nous avons été chez lui avec Rachid Benzine. Il y avait son épouse Touria. Et ce qui m'a frappé, il le dit d'ailleurs, et je crois que c'est vrai, il a été un conférencier mondial, on ne sait plus s'il faut dire mondial ou mondialisé, en tout cas il était beaucoup invité un peu partout, à toutes sortes de colloques, de conférences publiques, etc., à des rencontres avec, disons, les grands hommes du temps. Ce qui m'a frappé, c'était plusieurs images, je crois, avec le pape, enfin, ou avec les papes. Enfin, donc, il a été quelque part au Vatican ou à d'autres endroits, peut-être à des rencontres interreligieuses. D'ailleurs, les rencontres interreligieuses ont été importantes pour lui dans les années 60, surtout, je crois, à un moment donné, dans le dialogue islamo-chrétien en particulier.
Post-Vatican II.
Oui, donc, juste après Vatican, ou pendant. D'accord. Pendant. Et donc, j'ai été frappé par ces images interreligieuses que j'ai vues chez lui, avec, bon, bien sûr, des images familiales, des images d'enfants, etc. Donc, voilà comment je l'ai connu une première fois. Et puis ensuite, il y a eu les entretiens qui ont d'ailleurs été réalisés au Maroc pour trahir tous les secrets. Voilà, mais les entretiens, je me souviens, il était fatigué, hein, déjà.
Ah oui. Enfin, je voudrais rappeler à ce stade de notre entretien, ce matin, qu'il fut le quatrième de quatre, puisque maintenant il y a un cinquième, qui ont eu le privilège d'enseigner à Édimbourg dans le séminaire appelé le Gifford Lectures.
Ah oui.
C'est un séminaire fondé par Adams Gifford au 19e siècle. Mmh. Et quand on a l'insigne privilège d'aller y enseigner, c'est comme si, mutatis mutandis, on a eu le prix Nobel ou la médaille Fields pour les mathématiciens. Avant lui, il y avait Henri Bergson, Gabriel Marcel, Raymond Aron et Mohamed Harkoun, le quatrième. Maintenant, nous avons Bruno Latour. Je parle des Français, enfin, ou des penseurs, ou philosophes, historiens de langue française.
Il y a eu Paul Ricoeur aussi.
Il y avait aussi Paul Ricoeur. Alors, si vous me le dites, donc je me en rattrapera le cinquième de cinq, avec un sixième maintenant. Comment l'entretien a-t-il commencé? Parce que la construction humaine de l'islam, il y a une idée de construction. Donc rien n'est garanti par le divin dans cette construction.
Nous lui avons d'abord demandé de parler de sa vie. Et ensuite, assez rapidement, sont venus un peu ses grands thèmes. Mohamed Harkoun, ce qui m'a beaucoup frappé, disons le chercheur Harkoun, le spécialiste de l'islam, il était, comment dire, absolument soucieux toujours de dire et de redire, mais de quoi parlons-nous, hein, et donc de préciser les mots. D'où les précisions permanentes sur donc la parole coranique, le discours coranique, le texte coranique, et là-dedans encore des distinctions constamment sur les mots. Dans le livre, il y a par exemple, c'est surprenant, je lui pose la question à propos de la foi, enfin, d'un livre sur la foi, je crois. Et il me dit, non, je n'aurais pas dit un livre sur la foi, un livre sur la croyance. Et il fait ensuite des distinctions importantes pour dire que la foi, c'est vraiment le fond des choses, le fond humain qui permet d'ailleurs de construire quelqu'un. C'est quelque chose qui ne se détruit pas d'une certaine manière, tandis qu'il y a toutes les croyances superficielles, etc. Constamment, au cours de l'entretien, une partie des entretiens, je me souviens, était ces reprises de nos questions pour préciser et encore préciser, pour dire non, il avait donc le souci, il était même très dur souvent pour des chercheurs en disant, mais ils emploient couramment des mots comme foi, comme Dieu, comme si ça allait de soi.
C'est vrai, il avait ce souci scrupuleux de donner à chaque mot son ou ses sens quand
absolument.
Le mot est polysémique. Et dans l'exemple que vous avez pris, celui par exemple de la parole de Dieu, où c'est entre ce qui est consubstantiel à Dieu, qui est sa parole, absolument. Et ce que les musulmans ou non-musulmans d'ailleurs ont entre les mains dans un Coran entre deux couvertures, il y a en quelque sorte une sorte de perte en charge ou perte en ligne, parce qu'entre la parole de Dieu et le livre physique, objet, ce n'est pas interchangeable. C'est une projection, en quelque sorte, de cette parole de Dieu.
Oui, parce que, bon, vous le savez comme moi, il était obsédé un petit peu par le recouvrement de la parole de Dieu par une tradition qui n'a cessé d'accumuler, on pourrait dire, du commentaire juridique, de sorte que le jaillissement initial s'est perdu, quoi. C'est un souci, disons-le ici, de toutes les religions, hein. C'est un souci permanent du christianisme depuis toujours. C'est un souci des penseurs juifs. C'est comment retrouver le jaillissement originel ou originaire de la révélation. Hein, ce moment où, il le dit quelque part, il y a un fond qui reste totalement transcendant, inconnu, bon, dans le silence, on peut dire, éternel, de Dieu, il faudrait presque mettre entre guillemets. Et puis, il y a cette parole déclenchée de la révélation, hein, cette parole de Dieu. Cette parole qui est orale, quand même, pour commencer aussi. Cette parole qui est ensuite mise par écrit, donc, et là, ça devient le discours. Et enfin, qui devient un texte dans un livre. Enfin, alors, il distingue toujours toutes ces strates successives, hein, pour bien marquer les différences et les origines. Parce que quand même, là, sur cet exemple, d'ailleurs, on voit à quel point il avait le souci des origines pour les musulmans, de dire, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Hein, et c'est cette parole originelle, c'est celle-là qui leur permettrait encore de donner sens aujourd'hui à leur vie, à leur histoire, à leur politique. Évidemment, vous savez bien, il était quand même très très pessimiste sur la situation présente de l'islam. Hein. Dans le livre, je crois qu'il le dit quelque part, il n'y a pas un pays ou très peu de pays démocratiques. Aucun pays ne fait un grand effort de culture d'islam. Pour prendre le titre de cette émission, culture d'islam un peu rénovée, quoi, dans les consciences. Enfin, il est dur là-dessus, sur la dénonciation, hein.
Allez, il est extrêmement dur et sévère. Et si je reviens à cette idée du commentaire, l'amoncellement du commentaire sur le commentaire, qui justifie d'ailleurs l'idée de la construction humaine de l'islam. Donc, il en appelle de fait à la déconstruction de cette construction humaine.
Absolument, mais il précise, hein, déconstruire n'est pas détruire. Il tient beaucoup à dire cela, je crois. Hein. Dans nos consciences, souvent, hein, parce que ce mot déconstruction a pris une tournure dans beaucoup de têtes de déconstruction lancée par Derrida. Et dans beaucoup de têtes, si, déconstruction signifie... on détruit le bâtiment, il n'en reste pas grand-chose, ou presque plus rien. Alors que lui, c'est plutôt...
prendre les pierres une à une et les reconstruire autrement et trouver le lion pour avoir un bel édifice, mais fait avec le même matériau.
Et accessible, finalement, hein, accessible à une conscience moderne, on va dire, quand même. Hein.
Oui, nous verrons tout à l'heure ensemble un peu le modus operandi de cette déconstruction, ce regard toujours sévère, mais juste, sur la situation des contextes islamiques, comme il aime à dire, parce que pour lui, le mot islam seul devient non seulement un vocable anxiogène, mais aussi un mot valise.
Oui, alors, juste on peut ajouter, hein, il dit quand même, le mot islam a remplacé le mot Allah. Hein. Enfin, je dis simplement ceci pour nos auditeurs, tout ceci, évidemment, mériterait discussion et débat, bien entendu, quoi.
Oui. Lequel mot Allah, d'ailleurs, n'est que l'appellation de la divinité en arabe et ce n'est pas le dieu des musulmans, comme on le lisait dans les encyclopédies de prestige il n'y a pas longtemps encore. Alors, il s'est présenté tout au long de l'ouvrage, et il aime à se présenter ainsi, comme historien de la pensée islamique.
C'est juste, d'ailleurs, c'est... universitairement parlant, je crois que c'était sa spécialité. C'est un peu des postes et des chaires qu'il a occupés dans l'université. Mais c'est vrai que c'est quand même un historien. Et il le dit aussi, il a été très marqué quand même par le bouillonnement des sciences humaines dans les années 60. Ce qui fait d'ailleurs une autre originalité de Mohamed Harkoun, c'est un intérêt incroyable pour la philosophie de ces années-là. Hein, donc il parle de Derrida, de Lévi-Strauss, de Ricoeur, Roland Barthes. Il est très frappé par... c'était une époque, du reste, c'est quelque chose dont je me souviens moi-même, puisque moi j'avais à peu près 20 ans à cette époque-là, dans les années 65, très marqué par la linguistique, hein, la sémiotique, ça revient beaucoup dans ces livres Grémas, la théorie des actants, des choses de ce genre-là. Alors celui qui n'est pas très au courant de ces choses-là, ou qui connaît pas bien les théories linguistiques de l'époque, qui ont quand même eu, il faut le reconnaître, une durée relativement brève, un tout petit peu flotter, il faut le reconnaître.
C'est vrai, il aime à rappeler, parlant des SHS, les sciences de l'homme et de la société, avec cette batterie de disciplines, la sémiotique, l'herméneutique, l'exégèse moderne, l'historiographie, la paléographie, la codicologie, la philologie, la grammaire, la linguistique. Ah, il touchait à tout, tout en se présentant effectivement comme un historien. Il ajoutait aussi que l'histoire, pour lui, c'est une anthropologie du passé, avec un regard critique sur les systèmes de cultures et de pensées, mais surtout comme une archéologie du temps présent. Donc, c'est comme s'il y a une sédimentation qui s'est faite comme ça à travers l'histoire, et puis il fait des travaux, des fouilles archéologiques, mais sur la psyché des peuples, et notamment de ces peuples qui ont embrassé la religion islamique. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu tout particulièrement de ces entretiens, comme idée force?
Effectivement, le titre, il me semble qu'il se trouve dans l'ouvrage, c'est peut-être... mais je crois que je l'ai proposé moi-même, la construction humaine de l'islam, enfin j'ai proposé de prendre en tout cas cette expression, c'est cet aspect, cette volonté vraiment très radicale chez lui et très très farouche de faire la reconstruction, hein, puisque pas seulement la déconstruction, mais la construction humaine de l'islam. Peut-être que ce titre a quelque chose d'un peu provocant. Et pourtant, je crois, par un autre côté, il n'avait pas en tête de faire un livre qui dirait « mais l'islam n'est que construction ». Il dit simplement « l'islam, comme toutes les religions, a eu une construction humaine ». Et moi, en tant que chercheur, en tant qu'historien, en tant que structuraliste, si vous voulez, c'est mon travail, c'est celui-là. Mais encore une fois, dans l'idée chez lui, alors, voilà une chose qui m'a quand même beaucoup frappé, c'était pas un provocateur, encore une fois, de la foi des musulmans, et en particulier de la foi des simples, comme on dit parfois. Hein. Il ne voulait pas cela et il le répétait beaucoup. Mais en revanche, il était absolument, en même temps, radical dans la déconstruction, c'est-à-dire... il n'hésitait pas à employer le mot mythe. Hein, on est dans le mythe, on est dans le merveilleux peut-être.
Dans l'enchantement.
Dans tout cela, c'est dans l'invention.
Hein, oui, il aimait à rappeler, et vous avez raison de le dire, que radicalité méthodologique avec la tendresse pour les êtres.
Un petit peu, voilà, et aussi tendresse pour, je ne sais pas s'il faut dire tendresse en tout cas, respect des contenus.
Hein oui. Mohamed Harkoun, donc dont vous avez recueilli les idées lors de cet entretien, mais l'ouvrage, rappelons-le, n'a connu sa parution que bien plus tard. Donc c'est pour ça que c'est un titre à titre posthume que nous évoquons ces sujets-là. Qu'est-ce que pour Mohamed Harkoun paraissait être comme une entreprise intellectuelle urgente à mener?
Je dirais que l'entreprise intellectuelle la plus urgente serait quand même, me semble-t-il, d'après ce que j'ai lu et encore maintenant viennent de sortir des lectures du Coran, ou de ressortir ces lectures du Coran, son obsession était quand même comment lire le Coran aujourd'hui, quoi. Comment s'en débrouiller de ce texte, comment le mettre en pièces d'une certaine manière, cette espèce de texte compact, quoi, hein, et maintenu compact par une tradition que lui n'hésite pas à appeler obscurantiste, il faut, disons les mots, hein. Sa grande obsession serait d'ouvrir le livre de nouveau, de l'ouvrir à la lecture, à l'inspiration, à la lecture spirituelle pour les individus, à une lecture politique ouverte peut-être pour les sociétés. Voilà, il y a toujours, encore une fois, ces deux aspects. Même si, je le reconnais, l'aspect critique, quand même, dans ce livre aussi, le lecteur non prévenu pourra quand même trouver que vraiment, cet homme ne voyait que la critique possible. Mais il faut le reconnaître. Il vivait très douloureusement aussi une situation. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Mohamed Harkoun avait beaucoup d'amertume sur la situation. Il faut quand même le dire, hein. Et je pense que ces dernières années ont été obscurcies un petit peu par tout ce qu'on entend tous les jours. Vous le savez bien. On va
bien
pas faire
le
ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France. Alors qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui après les attentats, forcément. Mais c'était un homme profondément malheureux de cela. Et d'ailleurs, je trouve, moi qui suis évidemment d'un autre horizon, de l'horizon chrétien, séculier aussi, c'est ça qui m'a beaucoup frappé chez ces hommes, peut-être chez vous aussi d'ailleurs, Galeb, c'est la tristesse. C'est la tristesse d'une situation où eux-mêmes parlent de déconstruire, d'éclairer, d'expliciter, d'ouvrir, mais ils ont l'impression que rien ne s'ouvre, quoi, qu'on est dans un moment de fermeture dont ils ne voient pas l'issue. Et donc, voilà, si vous voulez, dans le sentiment que j'ai eu de sa personnalité pendant les entretiens, j'ai beaucoup ressenti ça, c'est-à-dire une amertume très lourde.
C'est vrai, parce qu'il était au soir de sa vie, il ne voulait jamais abdiquer. Il disait que mes ouvrages, au mieux, sont dans les coins sombres des librairies.
Aussi.
Et on trouve d'autres qui, peut-être, le mot est de moi, impliquent la crétinisation des esprits. On les trouve sur les étals, dans les devantures, etc.
Non, c'est juste.
Maintenant, pour revenir aussi à un des chapitres de l'ouvrage, il y a ce plaidoyer pour la connaissance.
Ouais.
C'est vrai qu'il distingue la croyance de la foi. La croyance sans la connaissance produit du fondamentalisme. Donc c'est le fait de connaître, de s'ouvrir sur les autres sagesses.
Mmh. Oui, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est un plaidoyer tout au long pour la connaissance. Simplement, il ne dit pas lui-même quand même comment accéder à cette connaissance. Lui a un parcours de connaissance tout à fait exceptionnel qu'il raconte, mais il ne dit pas comment d'autres aujourd'hui pourraient faire ce chemin, quoi. Hein. Je crois que là, il est quand même ennuyé on voit bien, lui, il aurait certainement dit, voilà, il faut présenter partout dès l'enfance des petits musulmans une sorte de religion éclairée. Maintenant, ça serait une discussion à avoir, que la religion éclairée, à quel moment elle commence, parce que l'éclairement est aussi un éloignement, très souvent. Hein. Et donc, ou une éducation libérale, par exemple, en matière religieuse, c'est souvent le meilleur chemin pour perdre la tradition religieuse, quoi. Alors, disons, ces problèmes-là, dans le détail, il ne les a pas tellement abordés, il y a tellement de choses dont on aurait aimé parler avec lui, quoi. Il avait quand même, de façon générale, la position de l'éclairer, quoi, au sens du mot allemand Aufklärung, hein, du 18e siècle français.
Les premières lumières, les secondes lumières, ça lui tenait vraiment à cœur. Aussi dans le sillage des maîtres du soupçon, il tenait à distinguer le moment coranique.
Oui.
Il le dit au sens hegelien du terme, c'est un moment qui a provoqué une rupture, une rupture à tout point de vue, et du moment islamique qui lui est venu plus tard,
voilà.
D'où la fameuse construction humaine de l'islam.
Alors, pour la phase islamique, pourrait-on dire, ensuite, il va la traiter de raison, c'est la raison immobile qui s'installe, quoi, hein, il n'y a plus rien qui se passe, enfin, bon, c'est connu d'ailleurs, mais il a son propre vocabulaire, hein, il dit, il y a une raison coranique, et ensuite, il y a une raison islamique qui devient une raison immobile.
Et son œuvre, c'était de voir comment sortir de la raison religieuse immobile pour au moins une raison interrogative. Et puis, il a parlé de cette fameuse raison émergente.
Oui, de cette raison presque initiale, d'ailleurs que malgré tout, on arrive à ressaisir que dans le texte, hein, finalement. Hein, mais il pense, mais il n'a du reste pas tort, je pense que le travail sur le texte, sur les mots, sur les expressions, sur les métaphores, et Dieu sait qu'il a fait ce travail lui-même autant que faire se peut, tout en n'étant pas linguiste, hein, mais on voit bien, c'est un savoir qu'il a voulu acquérir pour cela, mais il l'a fait. Ce travail doit permettre presque de casser la pierre, quoi, qui entoure le sens, ou que la pierre qui a fermé le sens. Il y a certainement de cela chez lui, hein, il veut retrouver cela. Je pense que c'est très présent, parce que il parle quand même, encore une fois, de ce moment initial de la parole. Mais la parole, forcément, les chrétiens aussi parlent de parole de Dieu, mais la parole de Dieu, elle est dans le texte écrit de la Bible et des évangiles. Hein. Il n'y a pas d'autre lieu.
simplement qui dit parole de Dieu ne dit pas sur ses aspects prescriptifs, législatifs, oui. Paradigmatiques, au normatif, qu'il y a là une portée universelle, atemporelle. Donc, il a aussi une critique de ce qu'il appelle la norme juridique puisée dans le texte.
Là, je dois dire, dans les choses que j'ai découvertes, bon, moi, évidemment, j'avais la connaissance du fait que les juristes ont tellement pris le pas dans les premiers temps, quoi. Enfin, tout ça, c'est encore une histoire qu'il faudrait faire de façon précise, qui était faite, mais que moi-même, je ne connais pas assez. Mais Dieu sait, il est une sévérité pour le juridique incroyable. Hein. Tout en tenant compte, alors, dans sa façon de détruire, de casser un peu l'enveloppe textuelle, il tient compte du rôle des juristes. Hein. Il dit, dans son explication des sourates, ça c'est quelque chose qui m'a frappé aussi, il dit, mais bien sûr, cette sourate, elle résout un problème juridique qui s'est posé, par exemple à propos des mariages, des choses de ce genre-là. Vous connaissez bien ça, mais je pense que les lecteurs qui liraient ce livre peuvent découvrir cet aspect, et même cet aspect de façon appliquée, quoi, parce qu'il en parle de façon très précise.
Oui, rappelons simplement qu'une sourate étant un chapitre du Coran sans être véritablement un chapitre, et que les aspects de facture ou de type législatif sont très peu au regard de l'ensemble du corpus.
Oui, voilà. Disons, au-delà des aspects proprement juridiques,
techniques, on va dire.
Des aspects techniques, juridiques, il dit, on a l'impression qu'ils ont joué très tôt un rôle dans l'écriture même d'un certain nombre de textes pour résoudre des problèmes, quoi, en quelque sorte.
Et puis, une des preuves de cette construction humaine de l'islam, c'est l'élaboration même de ce corpus juridique, puisque d'abord, il y a 4 écoles juridiques.
Tout à fait.
Le fait d'en avoir 4, il ajoute que ce n'est même pas garanti par le divin. Ça aurait pu être 3 comme ça aurait pu être 5.
Oui, c'est vrai.
Et puis la longue maturation là, au moins quasiment sur, en tout cas entre 767 et 855, c'est-à-dire la date de la mort des maîtres éponymes, comme il les appelle lui, ceux qui ont donné leur nom aux différentes écoles juridiques.
En parlant avec vous, je me rappelle aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est... Je ne sais pas exactement pourquoi il a été si impressionné par les méthodes linguistiques sémiotiques. Malgré tout, on peut le comprendre de la façon suivante. Il a ce souci de revenir au texte, aux expressions, aux mots. Et là, il dit, la première opération à faire, elle est linguistique. Linguistique, sémiotique, enfin, voir les acteurs, les actants, comme dit Grémas, etc. L'énonciation. D'ailleurs, par l'énonciation, il retrouve la parole initiale, quoi. Le contexte d'énonciation, comme disent les linguistes. C'est-à-dire, en particulier, les pronoms, tout ce qui indique un lieu, un contexte, etc.
Les théories du langage.
Les théories du langage. Et il dit, texto, hein, l'histoire vient en second. C'est-à-dire, la recherche historique ensuite, sur ce qui se trouve, la réalité historique qui se trouve derrière chaque verset, chaque sourate ou des parties de sourate, c'est le second temps. Disons, ça aussi, ça m'a quand même frappé, quoi, parce que de la part d'un historien, c'est assez rare de lire ça. Hein. Il y avait ces côtés marqués, je vais dire, par mai 68, non, par les années de sciences humaines, des années 60, début des années 70.
Et donc, du coup, il ajoute que ce qui est prime pour lui, c'est de déplacer les préoccupations des chercheurs, non plus pour asseoir la croyance, encore une fois, et comment problématiser ces questions-là en vue d'acquérir davantage de connaissances, parce que la régression tragique que nous connaissons maintenant est due à cette fermeture par rapport à d'autres apports, notamment la sagesse des Grecs et la science qui venait de Chine ou d'Inde. Mmh. Et alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un modus operandi, d'un mode opératoire, mais il passait en 3 temps. C'est d'abord une pensée subversive qui transgresse tous ces tabous. Parce qu'on considère l'islam maintenant comme quelque chose donné une bonne fois pour toutes, et on oublie cette longue construction.
Oui, en effet. Alors là, l'historien revient quand même. Hein. Lui, il dit, mais on est dans une construction historique. Hein. Il faut absolument re-historiciser l'islam pour montrer à quel point, pour en refaire une religion vivante. Quoi, hein. Une religion vivante, mais une religion vivante, c'est une religion avec des questions, avec des recherches, avec des doutes. Tout ce qu'il a en tête, c'est cela. Hein. Mais aussi, il n'est pas du tout opposé, il le dit à plusieurs reprises, il emploie le mot liturgie. Hein. Donc, en islam, je pense que c'est avant tout la prière, hein, peut-être la mosquée. Apparemment, très franchement, je ne sais pas du tout quelle était sa position personnelle sur la pratique dans la mosquée. Mais là encore, je lui rends hommage un petit peu, parce que c'est un souci qu'on ne voit pas tellement souvent chez les critiques éclairés de l'islam, hein, qui en gros bazarderaient tout. Harkoun, si critique soit-il et si dur dans ses mots, n'est pas pour bazarder, encore une fois, on pourrait dire, la longue tradition religieuse de l'islam.
Et puis, il y a aussi cette idée, chez lui, d'une normativité étouffante, d'un sacré obèse, qu'il faudrait savoir, j'utilise un terme désormais connu, oui, le dégraisser.
Oui, voilà, enfin, il est évidemment, comme d'autres, tout un sacré du quotidien l'importune énormément. Enfin, disons, il ne le supporte pas. Là, c'est clair. Hein. Il dit cette espèce de sacralisation générale de la vie avec des normes, avec probablement des peurs, des fantasmes, je ne sais pas, des représentations, aberrante, peut-être merveilleuse, mais aberrante pour un esprit éclairé du paradis ou de l'enfer. Hein. Donc pour lui, c'est quelque chose, évidemment, qu'en tant qu'intellectuel, il ne peut plus supporter.
Oui, hein, et que ce qui prime pour lui, c'est de sortir de cette panique et de crainte de la malédiction et cette recherche de la rétribution ou de la promesse pour aller jouir des délices paradisiaques.
Ouais. Non, mais là, évidemment, il fait une critique radicale qui est classique, mais qu'un esprit normalement constitué doit reconnaître, qu'une religion d'oppression n'est pas une religion. Une religion aujourd'hui qui est d'oppression et non pas de liberté, c'est-à-dire de choix, éventuellement des normes. Parce que ce n'est pas le n'importe quoi. Mais une religion qui est cela n'est plus acceptable.
Hein. Il y a cette fameuse triade qu'il a empruntée lui-même à son maître Claude Cahun, en trois verbes, transgresser, déplacer, dépasser. Donc il transgresse des tabous, il le dit, surtout le fait de déconstruire ce qui a été fait par des hommes, des acteurs sociaux, et puis déplacer, encore une fois, les préoccupations des chercheurs, non pas pour encore consacrer des choses et asseoir la croyance, mais déplacer ça vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens.
Oui, alors, dans cette perspective, il peut être peut-être assez iconoclaste, mais de façon paradoxale, parce qu'il y a un passage, peut-être le passage qui m'a le plus ému, ou le moment de l'entretien qui m'a le plus ému, c'est quand il parle des images en islam. Enfin, disons, le fait que l'islam, il y a un art hein, islamique, ou un art arabo-musulman, bien sûr, considérable, mais le fait qu'il ne soit pas figuratif. Alors, il a un passage dans le livre qui m'a vraiment ému. Il dit, moi, j'ai été à une exposition sur Delacroix, à Lima, je crois, à l'Institut du monde arabe, en 2004, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai retrouvé moi-même les références, il ne les avait pas dites pendant l'entretien. Et j'ai vu les tableaux de Delacroix en Algérie. Il m'a dit, ça m'a fait prendre conscience que du fait que nous avons interdit la figuration, nous n'avions pas, justement, il dit, nous n'avons pas d'image de ce qu'a été la civilisation arabo-musulmane. Un peu au sens où les peintres, au fond, c'était la photo
de l'époque.
Parce qu'il y a, évidemment les célèbres tableaux de Delacroix hein, sur l'Algérie des années 1830, d'ailleurs, par là. Hein. Alors, il dit, j'ai senti tout à coup ce qui nous manquait d'avoir totalement supprimé la figuration. Je n'avais jamais réfléchi, c'est pour ça que j'ai été un peu ému, je n'avais jamais réfléchi en ces termes aussi sur les contrastes civilisationnels, sur des choses aussi bête, j'allais dire, que l'image. C'est vrai que c'est un autre aspect des problèmes aussi. Hein.
Oui, parce que ça a l'air d'être prosaïque, mais encore une fois, la question de l'image fait partie de ces constructions humaines. À un moment donné, il y avait les miniatures persanes, elles-mêmes qui reconfiguraient certaines scènes, et puis par la suite, la crétinisation des esprits, puis la régression tragique a fait en sorte qu'on en a fait toute une histoire.
On a l'impression, quoi, que c'est d'ailleurs, c'est en partie vrai, un tout petit peu moins dans le judaïsme, même au début du christianisme, ça a été pareil, l'interdit de la représentation de Dieu a presque contaminé toutes les représentations, quoi. Si on remonte à l'autre origine, mettons Platon, qui n'aimait pas beaucoup non plus les images, parce que ce n'était que des copies du monde parfait des idées, avec ces deux origines-là, évidemment, ce qu'on pourrait appeler les monothéismes n'était pas la fête, en partie au moins pour les images. Alors le christianisme a connu des crises iconoclastes en sens inverse, parce que disons, il y a une exagération en disant, ben, puisque Dieu s'est incarné dans Jésus, dans le Christ, nous pouvons faire des images à gogo à partir du 4e, 5e siècle, quoi. Mais après, il y a eu des crises iconoclastes très fortes, et même la réforme au 16e siècle a été un refus des images terribles, comme quoi ça habite aussi nos cultures. Et comme vous le dites, souvent on considère que c'est prosaïque ces aspects-là. Mais comme c'est des aspects du sensible, moi je pense qu'on aurait intérêt à les étudier beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai trouvé récemment, il y a un livre d'une chercheuse tunisienne, Madame Wardi, sur
Ella Wardi,
là, sur la mort de Muhammad. Dès l'introduction, elle a aussi quelques mots sur ce sujet en disant, c'est quand même dommage que l'islam ait refusé non seulement de représenter Dieu, mais le prophète. Et elle dit, ce n'est pas écrit
nulle part.
Ce n'est écrit nulle part qu'il ne fallait pas le représenter. Parce qu'elle dit, ça donnerait une force de résistance à ceux qui le caricaturent, quoi. Hein. Voilà. Enfin.
Oui. Alors, je finis avec le troisième panneau du triptyque, là, de sa fameuse triade transgresser, déplacer, dépasser. Et pour lui, il faut dépasser les systèmes juridiques, encore une fois, dont les fondements théologiques sont de plus en plus ébranlés.
Oui.
Et pour lui, il y a lieu de désarrimer la norme juridique de sa gangue théologique.
Oui, effectivement, c'est, je pense, une partie de l'argumentation qui est quand même que c'est le juridique qui a en quelque sorte corrompu le message, quoi. J'emploie le mot corrompre, mais il y a quelque chose de cela chez lui parce qu'il pense que la parole initiale donnait beaucoup plus de sens, permettait beaucoup plus d'ouverture et de liberté, donnait peut-être les capacités aussi de réforme. Parce que ce que, au fond, le juridique ou les écoles juridiques ont fermé, à un moment donné, d'ailleurs, il faudrait voir exactement pourquoi, c'est qu'on ne peut plus évoluer. Hein, c'est-à-dire, il n'y a plus d'évolution possible, voilà, on en reste là.
Avec le fameux aphorisme de l'innovation blâmable.
Voilà.
Parce que l'innovation conduirait forcément à la fois à la corruption et à l'enfer.
Voilà. Mais il a aussi des je trouve, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, même si j'ai lu maintenant beaucoup de livres ces derniers temps et même depuis longtemps sur l'islam. Il a aussi une critique quand même assez forte de l'ijtihad, hein, enfin, on prononce comme ça, hein, du consensus, hein, où, parce qu'il dit, mais évidemment, au début, moi aussi, quand j'ai lu ça pour la première fois, je ne sais plus quel auteur, j'ai trouvé que c'était une idée brillante. Mais il dit, à l'époque, il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte. Il dit, à l'époque, ça ne pouvait pas marcher, ça n'a jamais marché.
Oui, alors vous parlez là de l'ijma, qui est le consensus, et l'ijtihad étant de la même racine que djihad, c'est l'effort en l'espèce, l'effort
d'interprétation,
intellectuel,
c'est ça, voilà.
Cérébral, etc. Mais la notion du consensus, pour lui, c'est une idée séduisante, mais elle ne peut pas fonctionner.
Oui, voilà, parce que souvent on dit, ben oui, mais si on rouvrait l'interprétation, quoi, si éventuellement on pourrait peut-être arriver à des consensus, ben il dit non, justement, il dit, il faut tenir compte que l'ouverture, la vraie ouverture serait le débat, la possibilité du débat, comme le disent les théoriciens contemporains de la démocratie, c'est que la démocratie implique toujours de la division. Hein. Et donc, un islam, on pourrait dire, un islam pluriel, comme cela doit se faire partout, qui est très compliqué pour les religions en même temps. Hein, parce que monothéiste veut dire un seul Dieu, mais a aussi toujours derrière la connotation unité, unité, unité. Et unité implique trop souvent et trop vite uniformité. Thank you.
sommes sur Culture d'Islam, France Culture, avec le sociologue Jean-Louis Schlegel. Poursuivons avec vous, Jean-Louis Schlegel, cet entretien qui lui-même reprend l'entretien que vous aviez eu avec le professeur Mohamed Harkoun, le regretté feu Mohamed Harkoun, sur l'ouvrage intitulé « La construction humaine de l'islam ». Et donc, qui dit construction humaine, il y a lieu de revoir ou de déconstruire ce qui finalement ne va pas bien ou qui s'est un peu cryogénisé dans l'histoire ou qui s'est fossilisé. Vous avez dit à plusieurs reprises que son regard et sa vision étaient critiques, sévères, très durs, mais à aucun moment il n'a dit qu'il en tire une quelconque jubilation blasphématoire.
Absolument.
Et quelle est pour lui un peu la vision programmatique pour en sortir? Le droit positif, déjà?
Oui, alors effectivement, il dit il faudrait que partout les pays d'islam, bien sûr, et puis peut-être, bien sûr, les musulmans en terre étrangère admettent le droit positif moderne. Hein. Il dit il n'a pas d'hésitation, je crois, sur ce point-là. Hein.
En aucun cas, d'aucune manière, mais pas uniquement en terre étrangère, même chez eux, là où les sociétés sont majoritairement musulmanes.
Voilà, donc il dit il faut que les sociétés majoritairement musulmanes arrivent à ce droit positif moderne. De ce côté-là, évidemment. Si nous avions eu plus de temps, nous aurions peut-être pu, comme on dit, le titiller un peu là-dessus, parce que c'est facile à dire, quoi. Hein, parce que précisément la transition, peut-être, d'un droit traditionnel à ce droit positif moderne, c'est le problème. Que faut-il faire pour y arriver? Alors, on l'a un tout petit peu vu dans le processus de démocratisation tunisien. Hein, on a l'impression qu'ils ont mis en place une constitution moderne au sens habituel du mot. Bon, est-ce qu'ils vont y arriver compte tenu de l'histoire et de la tradition culturelle? Ça,
et quelques pesanteurs de la société.
Alors, on peut toujours proclamer des principes politiques modernes. Ensuite, il y a une société. Ensuite, il y a une culture. Il y a une histoire. Et entre les deux, la collision est très fréquente. Je dirais même. Ne soyons pas trop orgueilleux ici, un peu trop fiers comme occidentaux, européens, français, etc. Cette question est très présente toujours aussi dans nos sociétés post-modernes et même post-modernes, hein, chez nous. C'est-à-dire qu'il y a ce conflit entre, effectivement, des principes et des réalités sociales, culturelles. Écoutez, les conflits de la laïcité aujourd'hui tournent pour une part autour de ces questions-là.
Oui. Alors, il y a deux autres aspects que nous essayons d'aborder ensemble avant la fin de notre entretien ce matin. Le premier, c'est une sorte d'amertume aussi de voir que les idéaux nés ou pour lesquels les révolutions ont eu lieu, la révolution américaine, française, peut-être même industrielle, ont été trahis le plus souvent par des administrations ou les gouvernements officiels. Et ça... Il est aussi critique sur ce qu'il appelle la clôture dogmatique de l'esprit moderne.
Oui, ça, il le craint beaucoup, alors que là, on est toujours dans le paradoxe, dans les paradoxes harkouniens, j'allais dire, parce qu'il est tellement dur dans la critique par moment qu'on pourrait croire qu'il devient dogmatique. Mais en fait, il se défend de l'être. Hein, il ne veut pas rejoindre le camp de dogmatique. Des Lumières, enfin, ou le camp des Lumières dogmatiques. Il le dit quand même à plusieurs reprises, donc il faut quand même le souligner pour qu'il n'y ait pas d'équivoque là-dessus. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, il le craint quand même assez fortement. Il a même des paroles, parce que quand il se laissait aller, il avait des paroles dures, hein, sur ce camp-là, oui. Sur le dogmatisme moderne de la raison.
Dont il ajoute que ce dogmatisme moderne de la raison a superbement ignoré le moment coranique comme un fait important dans la lente et longue maturation de l'humanité.
Bien sûr, et là, bon, il parlait quand même, il était originaire d'Algérie, il y avait de quoi dire là-dessus, sur ce plan-là. Hein.
Ou le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie.
Il le dit quand même par moment, lui aussi, forcément, Mohamed Harkoun a en tête une histoire coloniale. Alors, attention, il dit en même temps, arrêtons de faire de la colonisation l'excuse de nos immobilismes. Et en même temps, quand il le faut, il dit quand même à ceux qui exaltent trop la raison éclairée, la raison laïque, etc., il faut quand même rappeler que l'histoire ou l'exemple qu'ils nous ont montré durant la colonisation n'est pas un bel exemple.
C'est vrai. Alors, du coup, c'est le second point. Donc, de ce qui lui tient à cœur, c'est la notion de l'humanisme.
Oui.
Un humanisme qui assume les héritages des peuples, quels qu'ils soient, y compris ceux qui souffrent, ceux qui ânent sous des servitudes renouvelées, ceux qui sont maintenant sur les routes. Mmh. Et il parle donc de l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique oublié ou oblitéré ou effacé des mémoires.
Oui, non, mais je pense que dans construction humaine, ben, il y a humaine. Et je pense que humaine, dans sa tête, c'était aussi que l'islam, il y a eu des mots, il y a eu des bouquins au XXe siècle sur le christianisme est un humanisme. Je crois qu'il aurait pu signer un livre de ce genre-là, l'islam est un humanisme. Mais, bien entendu, encore une fois, il y avait cette amertume qu'il éprouvait devant ce qu'il voyait tout de même, quoi. Hein, je crois, ça c'est un. Il a été pris dans. C'est vrai que il me semble que la part de vie de Mohamed Harkoun a été traversée, disons, par les années des années 60 à nos jours, à la fin de sa vie, quand même par des évolutions tout à fait étranges. On était tous dans les années 60 sur. Qu'on allait vers des libertés nouvelles, même des libertés sans frontières. On avait l'impression que les religions allaient reculer, enfin en tout cas qu'elles n'auraient pas cette place parfois extrêmement irritante dans le devenir des sociétés. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc il a dû lui aussi, je crois qu'il a vécu ça de façon assez difficile quand même à certains moments, me semble-t-il.
Oui, ce sont aussi les trahisons des différents États, les États-nations post-période coloniale, où il voit que ils ont même institutionnalisé l'ignorance, comme il dit.
Oui, alors ça, certainement que pour lui, le péché capital, c'était quand même l'ignorance, quoi. Je pense que ça, vraiment, ça lui insupportait, je crois.
Voir la méconnaissance, parce qu'on se croit connaissant, mais on propage un savoir faux dès lors que lorsqu'on connaît, on a envie de.
D'autant plus qu'il était de ces esprits curieux lui-même, mais qui pensait que les autres aussi devaient tout connaître, quoi. Je crois, il y avait un peu, quand on parlait parfois avec lui, il avait quand même, disons-le, hein, un peu le mépris du grand cultivé pour l'inculture, quoi. C'est-à-dire, on pouvait l'entendre comme ça. Je crois que je retire tout de suite ma phrase parce qu'elle n'est pas tout à fait juste quand même. Mais enfin, bon, il n'avait pas beaucoup d'estime, je dirais, les oulémas dans le monde arabe, hein, de tout ça.
Ce c'était... qu'il appelait les gardiens de la croyance.
Voilà.
Ou les prédicateurs.
Voilà. Ou les faux savants, les faux prédicateurs, les. Je crois que là aussi, il était hérissé par ses prétendus savants, quoi. Alors, évidemment, là, il y a tout le problème de ce qu'on appelle savant, quoi, aussi. Le mot savant, dans les cultures arabo-musulmanes, est employé dans un certain sens. Il est employé chez nous dans un autre sens.
Hein. Bien entendu, c'était d'ailleurs d'où la question de la connaissance tout à l'heure en contexte islamique et comment être un sachant, un savant. Mais le plus important pour lui, c'est aussi le rôle, le statut, la tâche, la mission, l'ambition de l'intellectuel.
Oui.
Comment avez-vous perçu lui comme un intellectuel, au sens fort du terme? Il avait cette responsabilité.
Bon, je crois qu'elle se traduit un tout petit peu dans le fait que, par certains côtés, il a été plus intellectuel que auteur, quoi. Parce qu'il le dit, hein, il a l'air de le regretter, mais je pense qu'au fond de lui-même, c'était ça qu'il a aimé. Quand il est devenu un intellectuel connu, respecté, il a été aussi extrêmement invité dans des universités, dans des colloques, à des rencontres internationales de toutes sortes, où c'est là qu'il donnait sa mesure. Et en plus, il a connu d'ailleurs dans certains endroits des polémiques très dures, hein, en particulier, je crois, lors d'un voyage qu'il avait fait en Algérie dans les dernières années, il a été conspué, enfin, il s'est trouvé en difficulté. Hein, enfin,
voire accusé d'apostasie ou d'hérésie par ceux-là même qui se présentaient comme gardien de la croyance.
Voilà. Moi, quand je l'ai connu encore une fois, il était fatigué quand même, il était malade déjà, mais je pense qu'à un moment donné, il a été un homme intellectuel à rimer avec courage, en quelque sorte. C'est-à-dire une affirmation publique d'un certain nombre de positions qui n'étaient pas des positions, je dirais, trop accommodantes avec l'air du temps.
À propos de la doxa droite, ou la vision populaire des choses, mais aussi les différents gouvernants qui voyaient en lui et dans sa pensée subversive aussi un danger.
Oui, tout à fait. Enfin, là, je ne peux faire état que de conversations privées qu'on a eues. Il est certain qu'il ne portait pas au nu, c'est le moins qu'on puisse dire, un certain nombre, on va dire,
de dirigeants
et de responsables des pays, encore une fois, arabo-musulmans.
D'une part, c'est dans ces contextes islamiques, et d'ailleurs l'expression est de lui, par souci de rigueur, donc il dit les contextes islamiques à travers l'histoire et même maintenant, mais aussi chez nous, en France ou en Europe, où il voit la part belle donnée à tel ou tel sermonnaire ou doctrinaire, et pas à des intellectuels de sa trempe.
Oui, là, si vous voulez, évidemment, ça aurait été l'objet de discussion. Hein. Nous avons parlé, disons son nom, de Tariq Ramadan. Hein. Enfin, il avait une façon de parler de lui qui était un peu double, j'ose dire. Alors, quand on parle de Tariq Ramadan, évidemment, le mot double est peut-être le plus mauvais que je puisse employer, puisque c'est le principal reproche qu'on lui fait. Ce n'était pas le reproche qu'il lui faisait. Il lui faisait reproche sur sa doctrine, quoi, hein, sur sa doctrine politique, en quelque sorte. Il a quelques phrases comme ça, en passant, où il dit, on peut quand même, ceux qui disent que toute la modernité scientifique est dans le Coran, par exemple, c'est une façon de viser des gens, hein, ou de toute la modernité démocratique. Ce n'était certainement pas sa position, quoi. Hein. Non, lui, je crois que si mon souvenir est juste, il aurait plutôt pensé que le Coran pouvait, bien compris comme parole de Dieu, aujourd'hui, pouvait apporter une vie intérieure, en quelque sorte. Alors que paradoxalement, il dénonçait un peu le soufisme contemporain comme une façon d'éviter les problèmes. Mais en même temps, il disait, si le musulman veut une vie intérieure, une vie intellectuelle aussi, il peut la retrouver par la voie de la parole coranique, mais cette parole coranique, il faut la retrouver, quoi. C'était ça son obsession un tout petit peu.
Mais, comme un jaillissement, voilà, comme une source éthique, voilà, et spirituelle, et pas nécessairement.
Mais en revanche, je pense que lui, je crois qu'il le dit d'ailleurs, le Coran n'était pas pour lui, ne pouvait pas être la constitution d'un État moderne.
Bien entendu.
C'était absolu. Disons donc, en ce sens-là, l'islam politique n'était pas sa tasse de thé.
Bien au contraire, et d'ailleurs, il a combattu de toutes ses forces cette vision-là, à la fois dogmatique et doctrinaire. Merci infiniment.
Merci.
Cher Jean-Louis Schlegel. Nous arrivons au terme de notre entretien ce matin. Nous parlions de la construction humaine de l'islam. C'était Culture d'Islam par Ghaleb Bencheir. Aujourd'hui, nous avons reçu Jean-Louis Schlegel et nous avons parlé de la construction humaine de l'islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Dominique Campetissa. La prise de son a été assurée par Valérie Lavalard. La réalisation est pour Franck Lilin.